Quand la haine des femmes tue, le masculinisme, une idéologie haineuse vis-à-vis des femmes, prônant la suprématie des hommes, une doctrine qui, dernièrement encore, est à l'origine d'une tuerie au Canada. Un rapport parlementaire appelle à combattre ce poison qui se diffuse aussi dans la société française. Dans la deuxième partie de ce podcast, je reçois l'une des autrices de ce rapport, la sénatrice Les Républicains Béatrice Gosselin. Je l'interroge sur les évolutions du mouvement masculiniste. Il se propage désormais sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que cela change au public qu'il touche et à la rapidité de sa diffusion? Comment ces messages misogynes peuvent nourrir les violences faites aux femmes? Enfin, comment lutter contre? Car oui, c'est possible, assurent les parlementaires. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. C'est un homme en vêtements militaires qui fait irruption à la mi-journée dans un quartier de Montréal. Il est armé, il tire. Un policier de la ville de 34 ans et un habitant du secteur de 68 ans. Après les échanges de tirs avec les policiers, l'assaillant est lui aussi abattu ce lundi 22 juin. Derrière lui, il avait laissé un texte, un manifeste incel pour célibataires involontaires, une mouvance composée d'hommes qui se prétendent rejetés par les femmes, les jugeant, elles, responsables de leur célibat à eux.
Bien que notre ville elle est sécuritaire, il faut qu'on soit conscient qu'il y a quelque chose qui se passe dans les médias sociaux.
Soraya Martinez-Ferrada, la maire de Montréal.
Que quelque chose qui se passe dans un monde qui est beaucoup plus difficile à contrôler. Et d'avoir une vigie aussi sur ce qui se passe, sur une montée aussi d'une haine.
La haine des femmes a donc encore tué. Encore, car Montréal avait été frappé par l'un des premiers crimes de masse visant des femmes. En 1989, 14 jeunes femmes assassinées dans une attaque motivée par une même haine à l'école polytechnique. Mais la mouvance masculiniste menace aussi la France. D'ailleurs, le terme est celui dont les recherches ont le plus augmenté sur le site du Robert, le dictionnaire. Plus 800% sur un an. Une définition donc, c'est un mouvement idéologique qui prône un retour à des valeurs traditionnelles et s'en prend aux féministes portées par des influenceurs sur les réseaux sociaux. Par exemple, ces jeunes hommes adeptes du look maxing comprenaient un remodelage du corps afin de le rendre attractif auprès des femmes, parfois en se frappant la mâchoire à coups de marteau pour lui donner une forme plus anguleuse. Claviculard fait partie de ces influenceurs, vingtenaire américain aux 900 000 abonnés sur Instagram.
Bonjour. I'm American, so I don't really speak. You speak English? What? Well, you look very beautiful. What are you guys up to?
Il a passé la dernière fête de la musique dans les rues de Paris dans l'espoir de séduire de jeunes françaises. Visiblement, son succès et à son grand étonnement,
not tonight.
Il conclut, elles doivent être lesbiennes, car c'est aussi cela, le masculinisme. Une misogynie décomplexée, parfois violente, un poison, écrit même le rapport sénatorial, sorti ce mercredi 24 juin. L'une des autrices, la sénatrice Olivia Richard, rappelle que ce mouvement est apparu en réaction au féminisme.
Et je pense particulièrement à la sociologue Mélissa Blay. Le masculinisme est une stratégie d'adaptation du patriarcat aux avancées des droits des femmes portés par les féministes. Adoptant un discours victimaire, les masculinistes ont développé un langage codé et invitent par exemple à prendre la red pill, la pilule rouge, pour découvrir le monde tel qu'il est réellement, à savoir dominé par les femmes. Les féministes sont allées trop loin. Rien ne fonctionne plus parce que personne n'est à sa juste place.
Et ça touche du monde. D'après les résultats du dernier baromètre national tenu par le Haut Conseil à l'égalité, 17% de la population française adhère à un sexisme hostile pour deux tiers des hommes. Et les réseaux sociaux sont une porte d'entrée vers ces idées. Sur TikTok par exemple, il faut seulement 26 minutes à un utilisateur pour se voir suggérer des contenus masculinistes et c'est encore plus rapide pour les jeunes garçons de moins de 13 ans avec des risques pour la société. Dominique Vérien est la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat.
En s'attaquant frontalement au principe d'égalité entre les femmes et les hommes, en cherchant à disqualifier sans cesse la parole des femmes, en remettant constamment en cause des droits acquis par les femmes au prix de décennies de luttes militantes, les mouvements masculinistes et leur soutien, qu'ils émanent de la sphère politique ou de la sphère économique et technologique, représentent un risque réel pour notre démocratie.
Imaginez que l'homme rapporte les revenus pendant que la femme s'occupe du foyer. Imaginez l'homme comme un protecteur alors que la femme doit prendre soin. Une vision paternaliste qui amène certains hommes à des comportements d'emprise violente sur leurs compagnes. Elles n'ont pas besoin de travailler, de conduire, de sortir avec des amis. Libre à lui donc de la violenter lorsqu'elle ne se plie pas à cela. Jusqu'au meurtre, jusqu'au féminicide. En 2025, 170 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon. Olivia Richard, l'une des rapporteuses, décrit le meurtre d'un propriétaire sur ce qu'il considère être sa propriété.
Les femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Le féminicide est le meurtre d'un propriétaire qui n'admet pas que sa femme lui échappe. Le masculinisme légitime le fait qu'un homme est un prédateur et que la femme est une proie. Au total, en 2024, d'après les chiffres de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, 1283 femmes ont été victimes de féminicides ou de tentatives de féminicide direct ou indirect. Dès lors, je considère que chaque féminicide est un crime masculiniste.
Mais peut-on aller jusqu'à parler de terrorisme ? La menace masculiniste est suivie par la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Une dizaine d'individus susceptibles de se radicaliser violemment sont identifiés, tous ont moins de 21 ans. En juillet 2025, le parquet national antiterroriste a même mis en examen un lycéen de 18 ans, soupçonné de vouloir attaquer des femmes avec un couteau à Saint-Étienne. Une première concernant une personne se revendiquant comme incel. Bonjour Béatrice Gosselin.
Bonjour monsieur.
Vous êtes sénatrice Les Républicains de la Manche et donc l'une des trois co-auteurs du rapport avec vos collègues Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne, et Olivia Richard, sénatrice centriste des Français de l'étranger. On les a entendus dans le récit. Vous dressez un état des lieux complet du masculinisme en France. Qu'est-ce qui vous a, vous, surprise à l'issue de ces mois d'audition et de recherche ?
Alors, ce qui nous a le plus étonnés, et au fil des mois, puisque depuis novembre nous y sommes, c'est cette propagation qui vraiment se généralise de façon très très exponentielle de ces réseaux, de ces courants, de ces contenus masculinistes, et malheureusement des gens qui se font happer par ces dérives que je pourrais appeler de sectaires, mais surtout qui enferment les gens dans un mécanisme dangereux et pour eux et dangereux parfois pour les autres. Et c'est vraiment cette augmentation qui nous inquiète beaucoup.
Voilà. Ça touche de plus en plus de monde et on a envie de dire ça touche un peu tout le monde. À vous lire, le masculinisme d'aujourd'hui du 21e siècle se caractérise par sa grande hétérogénéité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de portrait type du masculiniste aujourd'hui ?
Non, il n'y a pas de portrait type. Il y a plusieurs courants, mais il y a aussi des convergences en fait.
Alors quels sont les différents courants et sur quoi se rejoignent-ils ?
Alors les différents courants, on dit que ça part un peu du patriarcat, c'est-à-dire ces notions un peu que la femme doit être inférieure à l'homme, que l'homme la protège, la femme. Alors, c'est des notions qui sont vieilles comme le monde, hein, mais qui finalement peuvent dégénérer sur des propos beaucoup plus sexistes et beaucoup plus différents, enfin des choses très différentes d'une femme à l'autre, que la femme finalement son rôle c'est d'être enfermée dans la maison ou enfermée ou élever les enfants, que son rôle social n'a pas lieu d'être, que en fait elle est là pour fonder la famille et s'en occuper. Et on a vraiment ce discours. Alors par quoi est-il provoqué ? Alors ça peut être des gens qui ont eu tout simplement des déceptions amoureuses, parfois un mal-être dans leur jeunesse ou au moment de leur adolescence, ou simplement parce qu'ils sont pas regardés par les filles comme ils aimeraient l'être, etc. Donc un ressentiment de rejet, ou parfois des hommes qui en veulent aux femmes en disant la femme a beaucoup trop d'influence maintenant, et on dit que la femme a quasiment atteint l'égalité de l'homme depuis 1970 et que en gros ça suffit quoi, il faut pas continuer. Alors c'est pas tout à fait le cas depuis 1970, on est loin d'être arrivé à ce où là où on est aujourd'hui, et je pense que l'évolution est nécessaire dans le monde du travail, dans le monde de la famille, etc. Et je crois qu'il y a eu plusieurs phénomènes qui font que finalement des gens qui ont ce ressentiment, ce côté où la femme finalement me prive de tout, accéléré par les réseaux sociaux et les algorithmes et les plateformes, on arrive à des gens qui peuvent penser que finalement la femme devrait être complètement oubliée ou diminuée dans la société, quoi.
Le masculinisme au XXIe siècle, c'est donc un contexte, le retour de bâton des avancées féministes de ces dernières décennies et le contexte aussi des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça change que cette idéologie vieille comme le monde, comme vous dites, se propage aujourd'hui sur les réseaux? Quelle est la nouveauté? Ça touche des personnes différentes?
Ça va beaucoup plus vite, déjà pour toucher beaucoup plus de monde. Ça, c'est un fait vraiment complètement acquis. Ça touche un public qui n'était pas forcément un public concerné. Vous êtes adolescent, vous n'êtes pas forcément bien dans votre peau, vous avez parfois essuyé un échec d'une petite copine, etc. Vous vous sentez mal compris et finalement, ben, vous allez rapidement sur Internet en quelques minutes pour aller sur ce genre de contenu. Mais quand vous êtes, les algorithmes vous ont fléché comme étant un jeune enfant, garçon de 11, 13 ans, 14 ans, et vous vous retrouvez très vite sur des contenus. Alors bien sûr, ils sont licites, mais ils sont quand même avec des contenus qui vous entraînent. Alors, par la récurrence et par parfois des choses anodines, mais qui ne le sont pas quand elles sont répétées et puis quand elles vont crescendo vers une sectarisation, c'est-à-dire vers une compréhension totalement faussée de l'égalité entre l'homme et la femme, voilà, eh bien, on arrive à avoir un public très jeune et avec des enfants qui se révèlent chez eux en disant « Que fais-tu, maman, aller au travail? Pourquoi tu restes pas à la maison? Pourquoi ma sœur est habillée comme ça? Elle ressemble à rien ?» Enfin, voilà.
C'est ce qui est essentiel à comprendre, ces contenus, lorsqu'ils touchent des personnes jeunes sont pas seulement des idées abstraites qu'ils entendent, il y a ensuite une traduction dans la vie de tous les jours.
Bien sûr. Alors vous avez, ça s'appelle les signes faibles, c'est-à-dire ces signaux qui peuvent alerter les familles, qui peuvent alerter les enseignants ou les gens du social quand on a ce genre de comportement. Par exemple, dans la cour de l'école, des propos sexistes. Qu'est-ce que tu fais? On ne discute pas avec toi. T'es une fille ou tout simplement non. Maintenant, ça c'est un truc entre garçons. T'as rien à y faire. Et des actes qui peuvent être vraiment très très inégalitaire par rapport entre les garçons et les filles. Pas non plus de relation d'amitié, c'est-à-dire que la fille, elle est là pour être séduite et pour avoir compléter son tableau de chasse. Elle n'est pas là comme étant une jeune fille avec qui on peut échanger, avec qui on peut discuter de façon ce qu'on appelle le plus classique et le plus normal possible dans les échanges sociaux, quoi.
Ouais, vous allez sur l'aspect des relations sexuelles. Il y a aussi un impact sur le rapport de ces jeunes hommes aux préservatifs qui viennent ensuite à l'ignorer, à en avoir moins l'usage qu'auparavant, ce qui a des conséquences évidemment sur la santé des jeunes filles en conséquence.
Il y a ce problème-là, vous dites que le préservatif est enlevé au dernier moment. Il y a aussi les hommes qui disent « elle ne veut pas au premier au début, mais si j'insiste, de toute façon, elle va le vouloir ». Et là, on arrive à des gens qui vous disent « non, non, mais moi, en continuant, elle va finir par céder ». Voilà, des choses qui sont complètement aberrantes et qu'on n'imaginait plus voir en 2026 et surtout au XXIe siècle.
C'est ce qui ressort de ce rapport, c'est le continuum de masculinisme qui va d'être touché par quelques messages sur les réseaux sociaux, jusqu'à la violence la plus extrême. Jusqu'où est-ce que le masculinisme peut pousser les hommes qu'il touche?
Bien, je crois que tout dépend un petit peu de l'environnement. Si vous avez une jeune personne, un jeune ado qui n'est pas bien dans sa peau, qui a suivi des échecs familiaux, sentimentaux, qui a été en échec scolaire ou avec du harcèlement, qui a subi du harcèlement, ce gamin, il va rencontrer des conduits, on lui dit oui, il faut que tu sois fort, les filles n'ont rien à voir avec toi, etc. Et les algorithmes vont l'entraîner de plus en plus dans ces propos de plus en plus violents. Après, on rentre dans des sphères privées où là, il y a des monétisations de coaching, même de stéréotypes qu'on peut proposer, jusqu'à casser la mâchoire pour avoir une mâchoire carrée, pour être vraiment viril. Et puis arriver ensuite, et ça de façon très mélangée, à avoir des propos qui peuvent être racistes en disant bah, la suprématie de l'homme blanc, donc évidemment pas d'homme de couleur. Alors le summum, c'est d'être un chef et d'être celui qui va être le plus viril, le plus performant au niveau de ses conquêtes.
Le masculinisme tue.
Oui, le masculinisme peut tuer, oui. Le seul qui a été reconnu comme un acte terroriste, c'est le jeune homme qui avait été repéré par la DGSI, qui avait des propos donc masculinistes et qui avait annoncé qu'il ferait un carnage à Saint-Étienne. Elle a été appréhendée, heureusement, avant ses actes, avec des couteaux dans son sac de classe. Et donc, c'est le seul, pour le moment, qui a été reconnu comme tel. Mais la DGSI suit plusieurs types de masculinistes qui sont quand même limites et dont on craint la dangerosité. Oui.
Est-ce que les féminicides, sans être des actes de terrorisme, sont aussi des meurtres liés au masculinisme? On l'a entendu dans le récit, oui.
C'est toute la question. Au niveau de la DGSI, ils ne veulent pas faire une chose particulière. Ils ne veulent pas enfermer les gens dans un carcan, par exemple. exemple des terroristes par rapport à la radicalisation religieuse ou radicalisation par rapport à l'ultra-droite, etc. Non, ils ne veulent pas ça parce qu'ils disent que c'est tout un ensemble, il faut qu'on surveille tout le monde, il faut qu'on ait les indicateurs pour voir où sont les dangers. Mais par contre, sur le plan de la légalité et des juridictions, en fait, les magistrats et les procureurs, à juste titre, quand ils ont une personne qui a fait un acte violent, qui a tué quelqu'un, ils recherchent les causes. Et par exemple, il est plus facile de définir que l'homme a tué cette femme-là parce que c'est sa femme ou parce qu'il lui en veut ou parce qu'il en veut à sa femme et à son ex-femme. Est-ce qu'il s'est passé avec Monsieur Prison, Cédric Prison ?
Cédric Prison, c'est ce père de famille arrêté au Portugal après le meurtre de sa compagne, son ex-conjointe et l'enlèvement de ses deux enfants. On en avait parlé ici même dans un épisode du podcast.
Il n'a pas été retenu comme étant militant dans le cadre du militantisme, alors qu'on sait très bien qu'il avait des vidéos et qu'il a suivi des podcasts et avec les algorithmes qui l'entraînaient sur des propos en disant que son ex-femme était absolument abjecte. Et donc, il n'a pas été reconnu comme tel parce que, en fait, c'est dans la sphère dite privée, c'est-à-dire un homme qui a tué des femmes qui étaient de son entourage. Et ils nous ont expliqué que finalement, c'est plus facile de déterminer un homme qui tue parce qu'il est en ébriété et qu'il va agresser une femme, etc. Ou parce qu'il a des problèmes psychologiques, que de considérer que d'après ses relations numériques, d'après ses interactions, il est plus dans un domaine d'un phénomène de masculinisme.
Dans masculinisme, il y a ce isme qui sous-entend que c'est une idéologie politique. Il y a un agenda politique du masculinisme, des masculinistes.
Un agenda politique qui est à l'avant et l'après le deuxième mandat de Trump. Je crois qu'on a eu là le boom donné par les algorithmes, par des gens très, très en phase avec ces dérives telles que Donald Trump et Elon Musk, avec aussi une capacité financière énorme pour financer ces réseaux. Et puis ça génère beaucoup, beaucoup d'argent parce que la monétisation de toutes les publicités, la monétisation des contenus et éventuellement des coachings et tout ça, font que ça génère énormément d'argent.
Oui, c'est ce que vous écrivez. Vous dites que les masculinistes prospèrent sur une économie de la misère psychologique. Ça rapporte.
Bien sûr, ça rapporte. Ça rapporte énormément. Et il est plus compliqué de faire entendre des contenus qui vont à l'encontre de ça, parce que cela, on n'a pas la masse, on n'a pas la manne financière déjà pour le faire. Et puis, pour des plateformes, il est plus intéressant de donner des contenus qui vont être lus et vus avec de la publicité à l'appui par des milliers de personnes que ces contenus qu'on voudrait nous mettre à l'encontre pour justement contrecarrer ces mouvements. Mais on sent bien que la manne financière n'est pas la même. Les associations féministes qui sont plutôt à l'affût de tout ça et qui sont peut-être aussi la porte d'alerte n'ont pas les mêmes finances non plus.
Justement, votre rapport se conclut par 24 recommandations. Un des objectifs, c'est de réguler et d'assainir l'espace numérique. Comment est-ce que ça peut se faire ? Est-ce que c'est même possible ?
Ce qui nous donne une petite nuance d'espoir, c'est cet arrêt du 16 juin 2026, donc tout à fait récent, de la Cour de justice européenne qui ouvre la voie au fait que les plateformes deviennent responsables des contenus diffusés par leurs algorithmes. Donc si on arrive sur le plan européen, et même sur le plan mondial, mais ne rêvons pas trop vite, d'avoir ces dispositifs qui font que les plateformes qui génèrent et qui diffusent ces contenus ont une sanction financière et même une fermeture, une invisibilité de leur contenu et de leur publication, on aura gagné. Mais maintenant, il faut que ça prenne place. Le DSA a déjà fait des pas.
Digital Service Act européen.
Mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je pense que c'est sur le plan européen qu'il faut vraiment faire ces démarches de façon à ce qu'on arrive à contrecarrer et à s'opposer à des plateformes qui sont beaucoup, beaucoup plus financièrement aidées et qui sont des plateformes coréennes, françaises et américaines, par exemple, et surtout américaines d'ailleurs.
Merci Madame la Sénatrice Béatrice Gosselin d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
Merci beaucoup.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer. Et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.